Alors, que fait le chrétien convaincu devant tout cela? Premièrement, il considère toutes les religions avec beaucoup de respect, puisque c'est Dieu lui-même qui, pendant des siècles, a laissé les hommes dire toutes sortes de choses sur lui. On sait maintenant que les hommes existent sur la terre au moins depuis 70 000 ans, l'époque où on retrouve des traces d'enterrement. Il y a des gens qui pensent que les hommes existent sur la terre depuis 400 000 ans, comme on a découvert près de Montpellier dans la grotte de Totavel du charbon de bois, que l'on peut dater 400 000 ans. Si vous pensez qu'allumer un feu est un geste d'homme et non pas un geste de singe, ça fait qu'il y a des hommes sur la terre depuis 400 000 ans. Il y en a qui pensent que les grands savants disent « on n'en sait rien ». J'ai entendu le fameux professeur Coppens faire une conférence avec la grande humilité des savants disant « ce n'est pas à moi savant de dire quand a été franchi le pas de l'hominisation, ça c'est une thèse philosophique et non pas une thèse anthropologique ». Bon, toujours est-il que si je prends mettons le chiffre 400 000 ans, qui est affirmé par beaucoup de gens, il y aurait des hommes sur la Terre depuis 400 000 ans, vous faites la soustraction, moins 4 000 ans, les chrétiens pensent que Dieu a commencé à se manifester il y a 4000 ans, à l'époque d'Abraham. Donc pendant 396 000 ans, Dieu est resté dans sa cachette. Il a laissé les hommes dire toutes sortes de choses sur lui. Il a laissé se développer la religion des Aztèques, la religion des Égyptiens, la religion des Grecs, la religion des Romains, sans bouger le petit doigt. Vous, si vous aviez été de bon Dieu, sans doute que vous seriez intervenu plus vite, en disant, mes enfants, je vais vous dire qui je suis, rangez vos affaires, vous dites des bêtises sur moi, voilà ce que je suis. Eh bien non, Dieu, il a tout le temps devant lui, il a même toute l'éternité. Il a laissé ses enfants, sortir toutes sortes d'âneries sur lui. Et quoi qu'en dise Hugo Frey, il ne s'est jamais énervé dans son atelier. Hein? Ça lui plaît de voir ses enfants chercher. Donc, le chrétien qui est convaincu justement que Dieu est intervenu personnellement dans l'histoire avant-hier, à l'époque d'Abraham, a une tendance spontanée à respecter toute cette quête religieuse de l'humanité qui s'est faite pendant des milliers d'années. Comment n'aurais-je pas le désir de comprendre la religion des Aztèques ou des Égyptiens, puisque, me semble-t-il, c'est Dieu lui-même qui a accepté cette quête. Vous comprenez que le chrétien n'a aucune envie de mépriser ses frères de l'Antiquité ou ses frères d'aujourd'hui. Les hindous, par exemple, c'est merveilleux, cette quête religieuse de l'hindouisme. Alors c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'intolérance, surtout actuellement dans l'hindouisme, mais spontanément, l'homme se dit, ça doit être, Dieu doit regarder ça avec sympathie. Nota bene. Il y a quand même dans les religions primitives des choses affreuses, hein, parce que le diable s'en mêle. Alors il y a la quête religieuse de l'humanité, mais il y a aussi le diable qui persuade les hommes de faire des choses affreuses. Bon, par exemple, combien de religions anciennes ont sacrifié à la mode des cultes, des sacrifices d'enfants? Ce père Léonie dont je parlais hier me disait que au Vietnam, dans les hauts plateaux du Vietnam, quand on construisait une pagode, on mettait dans chaque trou avant d'y enfoncer le pieu le corps vivant d'une petite fille à offrir à la divinité. Vous savez combien dans la religion des Cananéens, dans cette terre où les Juifs sont entrés à la suite de Josué, il y avait un tas de cultes comme ça. Les cultes cananéens, c'était des cultes où on sacrifiait beaucoup d'enfants. On a retrouvé dans les fouilles archéologiques d'Israël un tas de squelettes de petits-enfants autour des cultes cananéens. Et le roi Salomon lui-même, sous l'influence de ces femmes étrangères, est tombé dans cette énormité. Dans la vallée de la Géhenne, au sud de Jérusalem, on a sacrifié beaucoup de petits-enfants juifs à la divinité cananéenne. Alors ça, certainement, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Alors vous avez toujours un double regard possible sur toutes ces religions. À l'heure actuelle, et je participe à cette mentalité, on a plutôt tendance à voir ce qu'il y a de bien dans toute cette recherche de l'humanité, des religions primitives. Bon. Mais il ne faut pas oublier non plus l'autre aspect. Bon, la prostitution sacrée, la drogue. Encore aujourd'hui, il y a des religions africaines dans lesquelles le fait de sucer de la drogue hallucinogène fait partie de la religion. du temps de saint Paul, il y avait 2000 prostituées sacrées à Corinthe. S'unir à des prostituées sacrées, connaître l'orgasme avec des prostituées sacrées, c'est divin, c'est religieux. Les hommes ont toujours été tentés de confondre orgasme religieux et enthousiasme. D'ailleurs, le mot enthousiaste est un mot qui a été inventé par les Grecs pour signifier cet enthousiasme qu'on éprouvait quand on avait bien bu. Après les fêtes dionysiaques, quand on s'emplissait de vin, on disait « Dieu est en nous, on est entheoi, on est plein de Dieu ». L'un des plus beaux mots de la langue française, disait Pasteur, enthousiaste, qui veut dire mot à mot plein de Dieu. Ce sont les Grecs qui ont inventé ça, quand ils étaient pleins de vin, ils disaient « Dionysos se réveille en nous, on est plein de la divinité ». Les hommes ont toujours été tentés d'associer la drogue et la prostitution, le vin et la prostitution, à leur cérémonie religieuse. Alors tout ça, moi je pense que c'est pas très beau, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense pas ce qu'il y a de meilleur. Non, vous voyez, il y a à boire et à manger dans les religions primitives. Mais fondamentalement, on a un préjugé favorable, puisqu'on se dit, c'est Dieu lui-même qui a permis cette longue quête. Non seulement je considère ces religions avec respect, mais je suis capable d'admirer la générosité des juifs faisant leur jeûne au Kippour, la générosité des musulmans faisant leur ramadan, la non-violence des bouddhistes. Je pense que vous êtes bien habitués par les sermons, les conférences que vous entendez, à avoir un grand respect pour les autres religions. Et je vous y encourage, bien sûr. J'ai moi-même fondé une amitié judéo-chrétienne à Douai pour aider les braves gens à mieux comprendre, à mieux estimer les juifs. Quand on fonde une amitié judéo-chrétienne, il est bien marqué dans les statuts qu'il n'est pas question de syncrétisme ni de prosélytisme. On ne dialogue pas pour se convertir mutuellement ou pour arriver à une religion supérieure, mais uniquement pour mieux se connaître et mieux s'aimer. Et c'est vrai, comme aurait dit Paul VI entre deux sessions du Concile, toute religion possède un rayon de lumière que nous ne devons ni mépriser ni éteindre. Vous savez que Paul VI a été l'un des grands papes du dialogue. Sa première encyclique, Ecclesiam Suam, était sur le dialogue. Ou Lacordaire, qui a relancé les dominicains en France et qui a été le premier grand prédicateur à Notre-Dame de Paris, je ne cherche pas à convaincre d'erreur mon adversaire, mais à m'unir avec lui dans une vérité plus haute. Bon, c'est vrai qu'il faut toujours essayer de voir ce qu'il y a de vrai dans l'erreur professée par quelqu'un d'autre.